de nous rejoindre sur Radio Orient. Il est midi, le journal Nadia Bencher. Et à la une de cette édition, Emmanuel Macron reçoit ce lundi le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Au menu, les crises au Moyen-Orient et le renforcement du partenariat stratégique entre Paris et Riyad. Reprise du dialogue entre la Syrie et Israël après plusieurs mois d'interruption des discussions tenues en Jordanie sous parrainage américain. Présidentielle en France, Raphaël Glucksmann officialise sa candidature et pose déjà ses conditions. Aucune alliance avec Jean-Luc Mélenchon s'il remporte la primaire. Bonjour. Après un début de visite à Paris consacré dimanche à l'eSport World Cup, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman rencontre ce lundi le président Emmanuel Macron à l'Élysée. Une visite placée sous le signe du rapprochement entre Paris et Riyad, avec au menu les principales crises au Moyen-Orient, mais pas seulement. Il sera aussi question du renforcement des relations économiques entre les deux pays. Plusieurs accords doivent d'ailleurs être signés. Les détails de cette visite avec vous, Inès Gilles.
Et oui, Nadia, le prince héritier saoudien était déjà à Paris hier pour assister à la finale de l'eSport World Cup, une compétition de jeux vidéo, symbole du soft power saoudien. Une compétition organisée pour la première fois hors d'Arabie Saoudite. Mais aujourd'hui, place au sujet plus brûlant, puisque Mohamed Ben Salman et Emmanuel Macron vont présider ce lundi la première réunion du Conseil partenariat stratégique franco-saoudien, créé lors de la visite du président français à Riyad fin 2024. Alors au menu des discussions, Gaza et la solution à deux États pour Israël et la Palestine. Les deux pays sont investis sur ce dossier. 2025 déjà, Paris et Riyad ont co-présidé à l'ONU une conférence internationale visant à relancer la solution à deux États avec des engagements sur la réforme de l'autorité palestinienne, le désarmement du Hamas et la sécurité d'Israël. Les deux dirigeants vont aussi discuter du Liban. Une conférence est en préparation pour soutenir les forces armées libanaises et l'intégrité territoriale du pays. Et puis bien sûr, la Syrie sera évoquée, tout comme la recomposition des équilibres au Moyen-Orient. Mais les deux pays veulent aussi renforcer leurs liens économiques. Un forum sera prochainement organisé entre grands patrons français et responsables saoudiens autour de divers secteurs comme l'énergie, le tourisme, la culture ou encore l'intelligence artificielle. L'enjeu est de positionner les entreprises françaises sur des gigantesques chantiers de la Vision 2030. Ce plan, lancé en 2016 par Mohamed Ben Salman pour diversifier l'économie saoudienne et réduire sa dépendance aux hydrocarbures.
Merci Inès pour ces précisions. Nouvelle passe d'armes diplomatiques entre Paris et Téhéran. L'Iran qualifie d'illégale la décision française d'expulser deux de ses diplomates, une mesure de réciprocité après le refus de Téhéran de laisser revenir deux diplomates français brièvement arrêtés en juillet et accusés d'ingérence par les autorités iraniennes. Le ballet diplomatique s'intensifie à Téhéran. Le chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, est attendu ce lundi en Iran, alors qu'Islamabad tente toujours de jouer les médiateurs entre Téhéran et Washington. Demain, ce sera au tour du chef de la diplomatie omanaise de faire le déplacement, avec au cœur des discussions le détroit d'Ormuz. Mascate cherche à négocier une nouvelle voie de navigation dans ce passage stratégique que l'Iran maintient verrouillé tant que les États-Unis ne lèvent pas le blocus imposé à ses ports. Et puis la Grèce redéploie une batterie de missiles Patriot vers la Crète, où se trouve le site militaire de Souda, qui abrite la plus grande base militaire américaine et de l'OTAN en Méditerranée orientale. Selon la presse grecque, Athènes renforce ainsi sa défense face à la menace de frappe iranienne contre des installations militaires américaines en Europe en cas de nouvelle escalade avec Washington. Nouvelle montée de tensions autour de Gaza. Israël menace le Hamas d'intensifier ses opérations si les lancements de cerfs-volants, drones et ballons vers son territoire se poursuivent. Ces derniers jours, une dizaine de cerfs-volants sans explosifs ont été récupérés côté israélien. Le Hamas accuse Israël d'utiliser ces lancements comme prétexte pour mener de nouvelles frappes. Et puis sur le terrain, les violences se poursuivent dans les territoires palestiniens. En Cisjordanie occupée, un adolescent palestinien de 14 ans a été tué par des tirs israéliens près de Naplouse, selon les autorités palestiniennes. À Gaza, trois Palestiniens, dont un enfant de 4 ans, ont également été tués dimanche dans des frappes israéliennes dans le centre de l'enclave. En Syrie, l'ancien grand moufti Ahmed Badreddin Hassoun, figure religieuse proche de Bachar al-Assad, a été condamné à la prison à perpétuité. La justice le reconnaît notamment coupable d'avoir attisé les tensions confessionnelles et d'incitation au meurtre. C'est la première condamnation d'un responsable religieux dans les procès visant l'ancien pouvoir. La Syrie et Israël qui renouent le dialogue après plusieurs mois d'interruption. Des discussions de haut niveau se sont tenues dimanche en Jordanie sous parrainage américain après une récente frappe israélienne en Syrie. Damas dit vouloir favoriser la désescalade et éviter que les tensions entre Israël et la Turquie ne se répercutent sur le territoire syrien. Nouveau drame migratoire au large de la Tunisie. 12 corps ont été repêchés après le naufrage dans la nuit de vendredi à samedi d'une embarcation transportant 15 Tunisiens au large de Zarzis. Une personne a été secourue et deux autres sont toujours portés disparus. Les recherches se poursuivent. SOS Méditerranée alerte sur une intensification des menaces contre les migrants et les navires de sauvetage en Méditerranée centrale. L'ONG dénonce des interceptions de plus en plus violentes et des poursuites jusque dans les eaux internationales imputées à des acteurs libyens et à des groupes armés. Elle met également en cause la coopération européenne avec la Libye en matière migratoire. En France, Raphaël Glucksmann est officiellement candidat à l'élection présidentielle. L'eurodéputé participera en octobre à la primaire social-démocrate organisée par le Parti Socialiste et Place Publique avec l'ambition affichée de gagner et de relever la France, ce sont ses propres termes. Mais dès l'annonce de sa candidature, il trace une ligne rouge. Pas d'alliance avec la France insoumise s'il remporte la primaire. Invité hier soir du 20h de TF1, Raphaël Glucksmann a vivement mis en cause Jean-Luc Mélenchon et appelé la gauche à rompre avec les fractures identitaires. Il invite aussi les électeurs qui se sentent trahis, dit-il, ou abandonnés par la gauche à participer à la primaire. On l'écoute.
Si je gagne cette primaire, eh bien il n'y aura plus jamais d'accord avec...
Mais le Parti Socialiste ne vous a donné aucun engagement pour l'instant.
Tout le monde ne semble pas être d'accord au sein du Parti Socialiste sur cette ligne. Mais moi, je vous le dis, la seule manière pour la gauche de revenir au pouvoir, c'est d'être absolument clair. La gauche française, eh bien, elle ne se prosterne pas devant les dictateurs. Elle ne fait pas des jeux sur les non-juifs dans les meetings. Elle ne fracture pas en permanence la société en surfant sur les fièvres identitaires. Et je vais vous le dire, il faut arrêter d'avoir peur de Jean-Luc Mélenchon.
Donc c'est la primaire qui décidera si c'est avec ou sans Jean-Luc Mélenchon.
Nous verrons quel sera le débat. Mais je vais vous dire une chose, il ne faut pas avoir peur. Et j'aimerais m'adresser à vos téléspectateurs ce soir, en particulier à ceux qui se sentent trahis ou abandonnés par la gauche. Adhérez à ce processus de primaire.
Raphaël Glucksmann chez nos confrères de TF1 et conséquence directe de la candidature de Raphaël Glucksmann. Sa compagne Léa Salamé se retire de la présentation du 20h de France 2 pendant la campagne au nom de la déontologie. Déjà 107 milliards d'euros de déficit pour l'État français en 6 mois auxquels s'ajoute désormais l'annonce d'une hausse du chômage. À l'approche de la rentrée politique, les indicateurs économiques témoignent d'une dégradation par rapport à 2025 et illustre toute la difficulté du redressement des comptes publics. On écoute Mathieu Plane, économiste sur le ralentissement de la croissance en France.
Depuis quelques mois, on a un choc lié au prix de l'énergie qui vient impacter directement l'économie française. On le voit à travers la hausse des prix, le rebond de l'inflation est lié notamment au prix du pétrole et donc ça va impacter le pouvoir d'achat des ménages. Mais donc leur consommation, la consommation, c'est un des moteurs de la croissance. On voit que les entreprises sont assez frileuses aussi pour investir. Et donc, on a une croissance sur les 6 premiers mois de l'année, en fait, qui est proche de zéro. Donc, on n'a pas de croissance. Et donc, on a une forme de, au mieux, de croissance molle, voire de croissance zéro. Or, dans un contexte avec une croissance aussi faible, et avec l'incertitude que vous avez évoquée, les entreprises, en fait, n'ont pas suffisamment d'activité pour embaucher massivement. Et donc, au mieux, elles maintiennent leurs emplois, et dans certains cas, même, elles vont réduire leurs effectifs. Et donc, forcément, si vous avez peu d'activité, bah, vous créez peu d'emplois, voire même vous en détruisez. Et moins il y a d'emplois, plus il y a de chômage. Et ça, c'est vrai que ça s'est accentué ces derniers mois, mais on est sur cette trajectoire maintenant depuis un peu plus d'un an.
Et le contexte politique, avec la perspective de l'élection de 2027, peut aussi avoir un impact négatif sur ces tendances ?
Oui, alors on a commencé en fait à le voir, hein, cet impact négatif dès, j'allais dire, si on parle d'éléments politiques, depuis la mi-2024 avec la dissolution. Et en réalité, la dissolution, elle a conduit à un éclatement politique assez fort. Et on voit qu'aujourd'hui, il est très difficile, par exemple, d'adopter un budget. Or, un budget, c'est quand même l'ossature financière, hein, d'un pays. Et donc, sans budget, il est difficile de se projeter.
Mathieu Plane, invité d'Inès Gilles dans Grand Angle, c'est ce soir après le flash de 18h. Attention aux orages dans le sud de la France. Ces départements sont placés en vigilance orange ce lundi après-midi. Météo France met en garde contre un épisode pluvieux orageux, particulièrement actif avec des phénomènes localement violents qui progressera vers le sud-est. On l'a appris ce matin, le journaliste et animateur Philippe Bouvard est mort ce lundi à l'âge de 96 ans, figure emblématique de la radio et pilier de la station pendant plusieurs décennies. Il avait créé il y a près de 50 ans Les Grosses Têtes, devenue l'une des émissions les plus populaires du paysage radiophonique français. C'est la fin de cette édition. Merci à Mohamed El-Bizri pour la mise en onde. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour l'essentiel de l'actualité. Excellente écoute sur Radio Orient.